Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui d'étudier l'évangile de dimanche prochain. Ce sera un extrait de l'évangile de Saint Luc au chapitre 4, les versets 21 à 30. Le texte est la suite directe de ce que nous avons entendu dimanche dernier. Lisons l'extrait. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit, sûrement vous allez me citer le dicton, médecin, guéris-toi toi-même, et me dire, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Cet épisode est surprenant parce qu'il manifeste un grand changement. Au début du texte, on est face à un émerveillement. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture, et l'on nous dit que tous s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, tous lui rendaient témoignage à ce sujet. Il y a donc un premier temps où l'émerveillement devant la parole de Jésus prend toute la place. Et puis un deuxième temps qui va finir par la volonté de le lapider, le jeter en bas d'un escarpement pour, dans le processus de la lapidation, ensuite lui jeter des pierres. Donc voilà que on est passé de l'émerveillement devant la parole de Jésus à la volonté de le mettre à mort. Comment est-ce que cela est possible? Il semble qu'il y ait un pivot. Un pivot qui est la remarque suivante, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Cette remarque, d'ailleurs, n'est pas une remarque soudaine, mais une remarque qui doit tourner dans l'assemblée. En effet, à ce verset, Saint Luc met tous ses verbes à l'imparfait. À la fois l'émerveillement devant les paroles de grâce, l'étonnement devant ce que Jésus dit, et également cette remarque, n'est-ce pas le fils de Joseph? Tous ces verbes sont à l'imparfait, montrant qu'il y a une discussion qui doit se faire et qui doit se prolonger autour de cela. Les remarques de Jésus, suite à cette observation, n'est-ce pas là le fils de Joseph, vont nous expliquer, vont nous manifester quel est le problème spirituel qui se cache derrière cette remarque. Vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même, ce que tu as fait à Capharnaüm, fais-le ici. Ces paroles de Jésus manifestent deux choses. Premièrement, ils ont eu vent de ce que Jésus a accompli à Capharnaüm. Ils sont au courant des gestes de puissance et d'autorité que Jésus a accompli à Capharnaüm. Il a chassé un démon. Il a guéri toutes sortes de maladies. Il a enseigné avec une autorité qui n'est pas celle des scribes et des pharisiens. Tout cela, ils l'ont entendu, et pourtant, ils ne veulent pas le recevoir comme témoignage. Ils ne veulent pas l'accueillir comme un témoignage suffisant, puisqu'ils demandent à Jésus de refaire ce qu'il a fait. Une logique de foi devrait nous emmener plus loin que Capharnaüm, partir de ce que Capharnaüm a révélé pour aller à une révélation supplémentaire. Or, eux ne reçoivent pas le témoignage produit à Capharnaüm et veulent d'une certaine manière repartir de zéro. Jésus conclut alors, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Ce constat de la part de Jésus manifeste la difficulté d'accueillir quelque chose qui bouscule les habitudes de notre vie. On aime la nouveauté, mais pas le changement. On aime la nouveauté, mais pas le changement. L'observation, n'est-ce pas là le fils de Joseph, aurait dû ouvrir à un saut supplémentaire. N'est-ce pas là le fils de Joseph, celui que nous avons connu, qui était parmi nous? Mais voilà qu'il fait des signes. Qui sont les signes du Messie? N'est-il pas plus que le fils de Joseph? Il y avait l'opportunité d'ouvrir, de faire un pas supplémentaire de la connaissance de l'identité de Jésus, et le peuple de Nazareth va au contraire se refermer sur ce qu'il connaît déjà et exclure une nouveauté au-delà de ce qu'il avait perçu précédemment. Ce drame de la foi qui ne veut pas grandir, ce drame de la foi qui ne veut pas accueillir le surcroît de révélation de la part du Seigneur, l'approfondissement de la révélation de la part du Seigneur, a déjà été éprouvé dans l'histoire d'Israël. Jésus en rappelle deux épisodes, celui de la veuve de Sarepta et celui du général lépreux syrien Naaman. Deux épisodes qui manifestent que la grâce que Dieu veut répandre déborde même au-delà des frontières d'Israël. Cependant, le peuple d'Israël n'en profite pas, faute de foi en l'action du Seigneur. On se souvient de la réaction du roi d'Israël lorsque Naaman vient lui présenter sa requête. Le roi d'Israël déchire ses vêtements et dit « Suis-je un Dieu qui puisse donner la mort et la vie pour que celui-ci me demande de délivrer quelqu'un de sa lèpre ?» Pour sûr, rendez-vous bien compte qu'il me cherche querelle. Le roi d'Israël ne croit pas en l'action du Seigneur, il ne croit pas en la puissance du Seigneur à travers le prophète Élisée qui est pourtant dans son royaume. Devenu sourd et aveugle à la présence du Seigneur, il n'en profite pas. Cet épisode de la présence de Jésus dans la synagogue de Nazareth est pour nous un avertissement, une mise en garde face à un danger similaire qui nous menace. Les habitants de Nazareth voulaient s'en tenir à ce qu'ils connaissaient déjà de Jésus, c'est le fils de Joseph, ils avaient leurs habitudes. Et nous aussi, nous pouvons être enfermés dans nos habitudes de foi, de ce que nous avons déjà compris de la foi, en nous fermant à toute révélation supplémentaire ou à tout approfondissement de la révélation reçue. Quel est le signe de cette fermeture? On peut les trouver au niveau de notre intelligence, de notre mémoire et de notre volonté. Au niveau de notre intelligence, c'est le manque de curiosité face à l'Écriture sainte, par exemple. Je ne crois pas qu'en lisant, qu'en relisant les évangiles, qu'en relisant les livres de la Bible, je vais découvrir quelque chose. Finalement, je pense que je sais déjà qu'il n'y a plus rien d'autre à découvrir. Je n'ai pas cet élan. On pourrait dire de même avec le catéchisme de l'Église catholique. Je n'ai pas la curiosité d'aller le regarder, d'aller approfondir tel ou tel thème. Finalement, je me dis que ce que je sais est bien suffisant et qu'il n'y aurait pas de joie à découvrir autre chose. En ce qui concerne la volonté, c'est la difficulté à nous mettre en prière, c'est la difficulté à persévérer dans la prière, c'est la difficulté à offrir des moments dans notre vie de ce que l'on pourrait appeler une prière de transformation par opposition à ce que j'appellerais une prière de survie. La prière de survie est comparable à la respiration du nageur qui fait son crawl pendant l'épreuve olympique. Il lève de temps en temps la tête pour ne pas étouffer, mais ce n'est pas une grande respiration paisible. Il ne la retrouvera qu'à la fin de la course, celle-là. Une prière de transformation, si je garde l'image de la respiration, c'est cette grande respiration prolongée, savoureuse, que vous pouvez avoir en haut d'une montagne ou au bord de l'océan. On sent combien remplir nos poumons de cet air nous vivifie, et on a le temps, le calme pour le faire. La prière de survie est un temps de 5 minutes dans lesquels on pourra dire au Seigneur merci, pardon, s'il te plaît, tandis que la prière de transformation sera plutôt de l'ordre des 20 minutes, du quart d'heure, où on a le temps de méditer la parole, le temps d'être en silence, le temps de se poser devant le Seigneur et de le laisser agir dans notre cœur. Or, je peux être très remonté contre cette prière de transformation. Je n'y crois plus, je n'en ai plus envie, je n'ai plus envie de persévérer. Comme les habitants de Nazareth, je ne veux pas être bousculé. Au niveau de la mémoire maintenant, la vie du peuple d'Israël et la vie de l'Église aussi est de faire mémoire de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de grâce du Seigneur, de l'œuvre de salut du Seigneur. On voit combien la prière d'Israël a été pétrie par cette mémoire, et au contraire, les moments de drame d'Israël et l'oubli de l'action de Dieu dans son histoire. Parce que quand on est riche de l'action de Dieu dans son histoire, on est capable de lui demander, on est capable de lui faire confiance, on est capable de progresser dans la révélation. Eh bien, nous ne sommes parfois pas très riches de notre propre histoire en oubliant ce que Dieu a fait dans notre vie, en oubliant les moments où nous avions pourtant vu, saisi, interprété la présence de Dieu dans notre propre existence. Il arrive que nous n'allions pas chercher non plus ni recevoir les pépites des autres, les pépites de l'action de Dieu dans leur vie. Il est important d'entendre cela, parce que ce que le Seigneur fait pour l'un est le signe de ce qu'il veut faire pour nous. La guérison de Naaman, la survie par la jarre qui ne s'épuise pas de farine et d'huile de la veuve de Sarepta, ne sont pas une provocation au nez et à la barbe d'Israël, mais un signe supplémentaire de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu est à l'œuvre. Si seulement nous lui ouvrions notre vie, notre confiance, notre foi pour aller plus loin. Cet épisode à la synagogue de Nazareth, au début de l'évangile selon saint Luc, du mystère public de Jésus dans l'évangile selon saint Luc, est un appel à croire en la nouveauté de la parole de Dieu, même pour nous. Il y a un saut qui est possible, et qui est possible de la même amplitude que de passer à la reconnaissance de Jésus comme fils de Joseph, à la reconnaissance de Jésus comme fils du Père. C'est un avertissement qui nous est donné pour que nous nous ouvrions et que nous ne laissions pas passer cette chance du saut de la foi, et donc du saut de la présence du salut de Dieu au cœur même de notre vie et de ceux que nous rencontrons. Le Seigneur veut toucher, transformer notre vie. Il veut l'illuminer et la sanctifier. Ne le repoussons pas comme le firent les gens de Nazareth ce jour-là. Je vous souhaite de bons échanges.